Donc, voilà. Alors, écoutez, si je prends mes notes, ce sera mieux. Qui sait sur quoi je prêche en ce moment ? Sur un sujet, je vais vous dire, c'est un sujet qui n'est pas abordé dans les églises. Mais en ce qui me concerne, eh bien, j'ai besoin de tout le conseil de Dieu dans ma vie. Voilà, ça ne me suffit pas de savoir ce que Dieu pense de la prière, ça ne me suffit pas de savoir ce que Dieu pense pour l'éducation. Je veux qu'il me dise tout sur tout ce qui concerne la vie avec Dieu. Et l'apôtre Paul disait à un groupe de pasteurs qu'il avait rassemblé auprès de lui, et il dit « Je ne vous ai rien caché du conseil de Dieu ». Et je vous mets à défi de vérifier en France combien de prédicateurs prêche sur le sujet de l'imagination, c'est-à-dire sur le fait d'apprendre à voir quelque chose qui n'est pas visible. En tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons à vivre normalement sur terre. Je répète. En tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons, et c'est ce livre-là, uniquement ce livre, qui peut nous dire comment on vit normalement sur terre. Personne, aucune personne qui n'est pas née de nouveau ne sait comment vivre sur terre. En général, les gens se débrouillent à vivre sur terre en fonction de ce qu'ils ont vu comme exemple. Il y a toujours des ratés. En fonction de ce qu'ils croient comprendre, c'est-à-dire ils sont une référence pour eux-mêmes. Mais sur terre, il y a une manière de vivre, et la seule personne qui puisse nous apprendre à vivre sur terre l'a écrit dans ce livre-là. Donc, un chrétien qui ne prend pas le temps d'écouter la parole de Dieu, qui ne prend pas le temps de consulter ce livre, et je ne parle pas de le consulter une fois quand j'ai le temps, je dis d'en faire une priorité. J'ai besoin de savoir quelle réaction je dois avoir face à la maladie ? Qui va te le dire ? Les meilleurs hôpitaux de Paris ? Qui va te le dire ? Ce qui est écrit là. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire de beaucoup d'argent. Je ne parle pas de beaucoup d'argent comme étant 800 000 euros. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ça. Est-ce que tu saurais ce qu'il faut faire avec 46 millions ? Ben non, parce que certains, ils n'y pensent même pas à ce chiffre-là. C'est énorme pour eux. C'est énorme ou c'est pas énorme, ça dépend à quel point on a renouvelé ses pensées. Mais je vous assure, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir ce que j'appelle des grosses sommes d'argent. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ne savent pas comment vivre avec cet argent. Certains ne savent pas comment vivre avec deux maisons, plus une quatrième, une troisième en construction. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vivre seuls. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas vivre avec beaucoup d'amis. Ils sont perdus, Dieu n'est plus là. Beaucoup de gens ne savent pas vivre avec une nouvelle personne dans leur vie. Beaucoup ne savent plus vivre, ne savent pas vivre quand un proche est parti non plus. Et pourtant, dans tous les cas de figure, nous devrions pouvoir vivre normalement sur cette planète Terre. C'est-à-dire tel que Dieu l'a prévu. Je prêche mieux que ce que vous ne réagissez maintenant. Alors ma question est, quel style de vie voulez-vous sur cette terre ? Qui est votre exemple ? Qu'est-ce qui est votre exemple ? D'où tenez-vous cet exemple ? Moi, je suis déterminée. Il y en a un qui va m'apprendre à vivre sur cette planète. Et j'ai l'intention de savoir ce qu'il pense dans tous les domaines de ma vie. Pas simplement dans le pastorat. Bien que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas être le pasteur que Dieu voudrait pour eux sur cette planète. Ils copient. Moi, il y a des ministres du culte qui m'inspirent, et je les suis de près, ceux-là. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout vu de ce qu'il y a à voir concernant le pastorat. Mais je vais voir. Avant que je quitte cette terre, j'aurai expérimenté Dieu dans tous les domaines de ma vie, en sachant qu'il y a certaines choses que je n'aurai pas copiées, mais que j'aurai reçues de Dieu directement. J'aime pas ce qui est petit, j'aime pas la petite vie, Dieu est immense, il est infini. Et je ne vais pas me contenter de ce que je sais maintenant. Ben ouais, mais où je vais trouver ? Où est-ce que je vais trouver ce que je ne sais pas, ce que je n'ai pas encore vu dans ce livre-là ? Alors le sujet de l'imagination, je vais vous dire, c'est un sujet qui me passionne parce que je l'ai compris il y a peu. Mais en le comprenant, je ne vous explique même pas ce qui se passe. Il y a des barrières qui ont sauté. Il y a des limites qui se sont déplacées de plusieurs zéros. Des limites qui se sont placées de plusieurs mètres carrés. Il y a des limites qui se sont déplacées de milliers de kilomètres d'ici. Je pensais à ça en venant tout à l'heure. Aucun chrétien, je m'adresse à des chrétiens ce matin, hein. Apparemment je connais à peu près tout le monde ici présent, de près ou de loin, mais personne n'a besoin d'être jaloux d'une autre personne. Alors, je suis sûre que si je passais dans les rangs et que je posais le micro devant chaque bouche, je suis sûre que pas une personne ne me contredirait sur cela et dirait oui. Pourquoi ? Parce que nous savons que moralement, c'est vrai. Moralement, on ne devrait pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Maintenant, dans les faits, c'est autre chose. Il y a tellement de chrétiens qui disent « Moi, je n'ai pas cela. » Mais un autre a cela. Quelque chose qu'il voudrait, qu'il rêverait. Mais je ne l'ai pas parce que moi, tu comprends. Et on commence à se justifier. Tu comprends, je n'ai pas assez d'argent. Tu comprends, je n'ai pas eu cette éducation. Tu comprends, moi, il n'y a personne qui m'aide. Tu comprends, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que je n'ai pas les bonnes relations, je n'ai pas les bonnes connexions. Mes amis, il est temps d'arrêter ce raisonnement une fois pour toutes. Au lieu de passer des heures à méditer sur les raisons ou de notre échec ou du manque de moyens, et en essayant de se justifier, moi je n'ai pas ça parce que, mais un tel il a ça. Moi un jour le Seigneur m'a arrêté, mais il m'a arrêté tellement net que jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre un peu le moment encore. Hein. Et j'étais en train de dire, oui tu comprends, moi je n'ai pas telle église parce que, moi à l'époque en tout cas, il n'y a personne qui me soutient financièrement. Moi, je n'ai pas cela parce que il n'y a pas un pasteur qui m'a dit comment on devait être un autre pasteur. Moi, je n'ai pas cela parce que tu comprends, je suis pas mariée. Moi, je n'ai pas ça parce que tu comprends, j'ai pas fait ces études ou celles-là. Et le Seigneur m'a arrêté, mais stop ! Arrête cela, arrête ce que tu fais. Ça a été, mais le Seigneur m'a reprise d'une manière, c'était très violent, il ne m'a pas hurlé dans les oreilles, il ne m'a pas cassé un tympan, hein, brisé. Mais s'il y avait une telle autorité qu'à partir de ce moment-là, j'ai cessé de me justifier et d'expliquer pourquoi je n'avais pas telle chose et pourquoi une autre personne l'avait. À partir de ce moment-là, j'ai dit, ça stoppe maintenant, ok, d'accord, je comprends que si je continue sur cette voie-là, d'abord je vais développer de l'amertume. Et quelqu'un qui devient amer, c'est quelqu'un qui commence à critiquer les autres, c'est quelqu'un qui commence à développer des maladies, et puis c'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire preuve de gratitude envers Dieu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est plus dans la foi, et qui non seulement ne va pas avoir ce pourquoi il croit, mais qui va avoir ce qu'il ne veut pas avoir. Et ça a été terminé. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre mon destin en main, parce que mon destin ne dépend pas de qui que ce soit que de Dieu et moi. C'est tout, c'est là que ça s'arrête. C'est juste Dieu et moi. Sur le sujet de l'imagination, vous savez, c'est un sujet qui n'est pas prêché, qui n'est pas connu, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de savoir tout ce que Dieu a pour eux, tout simplement. Ils sont contents avec ce qu'ils savent. Ils sont contents de leurs 5 prières tournées vers la cuisine. Ils sont contents d'amener leurs enfants à l'école du dimanche, à l'église du dimanche. Ils sont contents. Ils sont contents, cela, ça leur suffit. Ils chantent leurs 3 chants au Seigneur. Allez, ils donnent leur dîme, qui est toujours la même d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais d'augmentation. Et ils sont contents de cela, ça leur suffit. Mais quand on cherche, et qu'on cherche, et qu'on cherche, et qu'on cherche Dieu, je vais vous dire, il va ouvrir les yeux sur des domaines qu'on n'aurait jamais soupçonné être aussi importants que les yeux. Très souvent, quand dans les églises, oui, on prêche sur la vue. On prêche sur la vue, tu ne convoiteras pas. Ah, c'est le seul truc qu'on entend. C'est bien, il faut l'entendre, surtout dans notre génération. Mais je vais vous dire, c'est limité. Parce qu'en tant qu'être spirituel, nous sommes faits pour voir ce qui n'est pas visible. Nous sommes faits pour voir ce qui n'est pas visible. Bien, alors, je reprends 2-3 versets et j'ai l'intention de finir mon message aujourd'hui. Avoir. Je pense que vous devez avoir les images. Hein, Ok, très bien, très bien. Alors, juste reprenons ce verset, là, Acte chapitre 2, verset 17 à 18. Le Seigneur dit dans les derniers jours. Les derniers quoi ? Jours. Les derniers jours. Ma question est, y a-t-il une possibilité de savoir quand nous sommes dans les derniers jours ? Donc, si on parle de jours, on parle de temps qui sont bien mesurés. Vrai ou pas? Donc on devrait les reconnaître. S'il y a des derniers jours, il y a des premiers jours. Les derniers jours de notre période correspondent à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la période qui vient après étant le millénium. Les derniers jours de notre période ont commencé depuis la Pentecôte. On sait que Dieu a donné à l'être humain un bail de 6 jours. Le 7e jour étant le millénium, c'est-à-dire la période qui vient après. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e jour. Je ne vais pas élaborer sur le sujet parce que ce n'est pas le but, mais aujourd'hui, nous sommes à la fin du 6e jour. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, c'est-à-dire le 5 et le 6, puisque la Pentecôte a démarré ces jours-là, le mouvement de l'esprit, la nouvelle naissance et le mouvement de l'esprit, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bon, ben, c'est facile, hein. Voilà. On a une petite explication. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que ils parleront de la part de Dieu des paroles inspirées. Vos jeunes gens auront des visions. Ce qui veut dire que les jeunes en âge qui sont nés de nouveau, devraient voir des choses. Je ne sais pas pourquoi dans l'Église on n'entend pas ce que les jeunes ont vu. Pourquoi n'entend-on pas les jeunes nous dire, oh, moi je vois cela, je vois mon avenir, je vois l'Église aller vers là, je vois ce nouveau projet là, je le vois. Pourquoi n'entend-on pas cela? Parce qu'on n'en parle pas. Non seulement il est dit que les jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que les personnes plus âgées auront des rêves, c'est-à-dire que les personnes, elles aussi, verront certainement des choses qui sont réveillées en elles. Personne ne devrait quitter cette planète et dire « Rien de ce que j'ai rêvé ne s'est accompli ». Et pourtant, il y a des millions de chrétiens qui quittent cette planète et qui peuvent le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais eu de rêve. Il n'y avait rien à accomplir. Et il est dit ensuite, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, donc apparemment, ceux qui veulent servir Dieu avec ce qu'ils voient, il y a presque une dose supplémentaire. Il dit, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et la fin de la phrase, c'est, et ils prophétiseront. C'est-à-dire que ce que le Seigneur leur montrera, qui n'est pas forcément visible, tout le monde veut voir ce qui est visible. Ça s'appelle uniquement suivre. Tu vois ce qui est une évidence. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Je dis, il n'y a pas de gloire là-dedans. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Si tu vois ce que tout le monde voit, il n'y a pas de gloire là-dedans. En revanche, si tu vois ce que les autres ne voient pas, quelqu'un dit, comment puis-je voir quelque chose que je ne vois pas ? Fermons les yeux, tout le monde, fermons les yeux. Je dis camembert. Hein ? Je vois la boîte. Bon, ben c'est quoi ? C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a vu quelque chose qui n'est pas visible. Il n'y en a même pas un dans la pièce, c'est vrai ? Ok, d'accord. Et il est dit que ceux qui acceptent de voir ce que Dieu leur montre, ceux-là seront tellement consumés par ce qu'ils verront. Moi, je suis tellement consumée parce que je vois dans mes prochaines années que personne ne pourrait me faire dire que je finirai malade, grabataire, sur un lit, sans un sou, assistée. Personne ne pourrait me dire cela. Pourquoi ? Parce que je vois et tout autre chose et que je suis tellement consumée par ce que je vois que je parle. Je vais vous dire, un jour, vous allez m'entendre dire que j'ai amené toute ma famille dans un super voyage dans les meilleurs hôtels. Un jour, je vous dis, je prophétise, je vous dis ce que je vois. Amen. Je ne parle pas d'amener ma famille à camper à Sospel, même si je n'ai rien contre cela. Hein ? Et ceux qui sont spirituels et qui comprennent, ils peuvent se joindre. Ça me ferait très plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié les textes et que j'ai décidé de croire et de vivre comme un être humain normal. Le seul qui puisse, c'est un être humain né de nouveau. Maintenant, vous pouvez voir à quel point je prends au sérieux tout cela. Hein ? Un autre passage, Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Lorsqu'il n'y a point de vision, donc quand on ne voit pas, le peuple est sans frein. Une autre version dit quand personne ne prévoit, c'est-à-dire ne voit à l'avance l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Je répète une définition que je vous ai donnée de Remez Sasson, ou Sassoun, je ne sais pas. L'imagination est la capacité de former une image mentale de quelque chose qui n'est pas perçu par les cinq sens. Très souvent, on dit « Ah, mais ça, c'est de la... c'est une religion orientale. » Tous ceux qui sont dans la religion orientale ont cette forme de méditation. Mes amis, ça n'est qu'une mauvaise contrefaçon de ce que la Bible nous dit de faire. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ça n'est pas parce qu'il y en a qui utilisent mal leur imagination. Ça n'est pas parce qu'il y a des personnes qui voient mal, dans le sens qui voient ce qu'ils ne devraient pas voir, qu'il ne faut pas pratiquer la parole selon Dieu. Vous croyez que quand je vous parle, je vois le X nombre de personnes? À chaque fois que je pense au local, ce n'est pas un local désaffecté comme il est en ce moment que je vois. Vous n'avez aucune idée combien de personnes je vois entrer dans ce local, sous le porche. Il y a des poussettes, les gens viennent. Pendant que d'autres quittent le culte qu'il y a eu précédemment. La salle, elle est déjà pleine. C'est dur pour moi parce que pour moi, elle est déjà trop petite. Je vois très bien l'espace café que l'on va avoir. Je vois très bien ce que l'on va faire au moment de Noël dans la courette. Je sais exactement, je vois ce qui va se passer. Je vois les enfants qui sortent, je sais par quelle porte ils sortent. Et tout ça fait que je ne vis pas sans frein et que je ne vis pas dans le désordre. Et donc, ce Remes Sasson a dit, l'imagination, c'est la capacité de l'esprit à construire des scènes mentales, des objets ou des événements qui n'existent pas, qui ne sont pas présents ou qui se sont passés, produits dans le passé. Dieu a dit à Abraham, tout ce que je vois, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Il lui a montré le pays. Abraham n'était pas encore sur la terre en tant que propriétaire. Le peuple d'Israël n'y était pas encore. Et pourtant, il a dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Le problème, c'est que nous voulons voir ce qui est déjà visible. Dieu veut que nous utilisions nos yeux pour voir ce qui n'est pas visible et ce qui a à voir avec notre futur, celui de nos enfants. Notre ministère, notre carrière professionnelle, le quartier dans lequel nous vivons. Je vous redonne ce qui a été découvert par un pédagogue psychologue au siècle dernier. Il s'oppose au sens commun qui veut qu'un enfant ait plus d'imagination qu'un adulte et que celle-ci diminue avec l'âge. Le déclin de l'imagination mis en évidence, selon ce pédagogue, est lié à la perte des rêves de jeunesse. Non, ça, je le dirai à un autre moment. Au pragmatisme inhérent à l'âge adulte, ce qui ne signifie cependant pas la disparition complète de l'imagination, mais sa régression. Finalement, ce n'est qu'à l'âge adulte et pour quelques individus seulement que l'imagination et la pensée rationnelle s'uniront pour favoriser la création d'œuvres originales. L'imagination ne disparaît pas, elle s'estompe peut-être au profit de la pensée rationnelle. Alors, les enfants, eh bien, imaginent beaucoup. Matthieu chapitre 1. Versets 3 à 4, je vous le dis, simplement, on montre l'image. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, c'est-à-dire dépendant, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Il y a des qualités que le Seigneur souhaite que nous ne perdions pas, en tant qu'adultes, ce sont des qualités que l'on trouve chez les enfants. Un enfant ne prétend pas tout savoir. Et c'est dur de ne pas prétendre tout savoir quand on acquiert et accumule de la connaissance. Le Seigneur dit, alors, on va étudier certaines caractéristiques. Les enfants ont une imagination illimitée. L'imagination est un don de Dieu qui permet de voir de l'intérieur ce qui va se passer à l'extérieur. Je répète. L'imagination permet de voir de l'intérieur, de visualiser à l'intérieur ce qui va se passer à l'extérieur. Mes amis, ça s'appelle être responsable de sa propre vie. Au lieu de passer notre temps à être des victimes de la vie, à être des victimes de l'employeur, à être des victimes de la décision des enfants, à être des victimes de ce qu'il y a sur le compte en banque, de ce que les parents ont légué ou n'ont pas légué, de ce que le mari veut faire ou ne veut pas faire, mes amis, utilisez la vue pour former une vision mentale de ce qui n'existe pas encore à l'extérieur. Ça s'appelle être responsable de sa vie. Ma question est, veux-tu être responsable de ta propre vie? Alors il va falloir que tu sois un être humain normal, que tu acceptes de visualiser ce qui n'est pas encore visible. Vous vous rappelez du message que je vous ai apporté au début de l'année 2019, je vous aide là, hein, l'année du 9. Le Seigneur voudrait que tu vois le 9 sous une forme mentale avant de l'avoir vu de manière tangible, réelle. Pourquoi ne verrais-tu pas la fin de tes études ? Tu dis, ouais, tu sais, je ne suis pas bon dans les études, je ne suis pas bon. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les études que tu es obligé d'être nul dans les études. Même si tu n'aimes pas quelque chose, rien ne t'empêche d'être bon. Ah, ça, c'est une nouvelle pensée, ça. Il y a un homme qui s'appelle Napoléon Hill qui a dit, si tu ne peux pas voir de grandes richesses sur ton compte en banque, tu ne les verras jamais sur ton relevé bancaire. Tout à l'heure, je vous parlais d'un tableau. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une copie de mon relevé bancaire. Et comme solde, j'ai marqué celui que je voulais. Et je l'ai dans mon carnet de ce que je vois, de ce que je veux voir de manière tangible. J'ai pris mon bulletin de salaire et j'ai marqué solde à payer. Je me suis marqué mon propre chiffre. Ça ne dépend pas de l'Église. Ça dépend de moi et de Dieu. C'est tout. En sachant que dans ma tête, mon salaire n'est pas que de l'Église. C'est ce que le Seigneur m'apporte de mille et une manières. C'est-à-dire, je ne le limite pas. Un Chronique 29, 18, l'Éternel, c'est David qui prie, il y a beaucoup d'offrandes qui ont été apportées pour le temple, pour le premier temple, que Salomon, le fils de David, va construire. Et David dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde ceci, c'est-à-dire cette précipitation pour apporter un nombre, un chiffre d'offrande qui était tellement grand que David a été obligé de dire aux gens, arrêtez, calmez-vous là. N'en jetez plus, la cour est pleine. Et David est en train de demander à Dieu, pour le peuple, il dit, garde ceci à toujours dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple et dirige leur cœur vers toi. » Vous vous rappelez de ce monsieur? Qui est ce monsieur? Non, c'est pas un clown qui est... C'est Albert Einstein. Écoutez bien ce qu'il a dit. Albert Einstein croyait en Dieu, hein, vous le savez ça. Il a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance. » Non mais, c'était un génie ce monsieur. Vous parlez de connaissance qu'il avait, c'est une connaissance que d'ailleurs peu arrive à percer. Et ce monsieur dit « L'imagination, c'est-à-dire visualiser une image mentale avant que la chose ne soit réelle, est plus importante que la connaissance. » Et il va nous dire pourquoi. Il dit « Car la connaissance est limitée à tout ce que nous savons et comprenons maintenant, tandis que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura toujours à savoir et à comprendre. » Il a dit aussi ceci, « La logique vous mènera de A à Z, mais l'imagination vous mènera partout. » C'est-à-dire, crois-tu qu'il y a autre chose avant A et autre chose après Z. Hein? Il a dit, l'imagination est tout ce qui compte. Ah, écoutez ce qu'il a encore dit. Voilà, il a dit, vous saviez qu'il avait dit toutes ces choses sur le fait de visualiser. Est-ce que tu peux visualiser ta prochaine maison? Ben moi, oui. Elle est très claire. Très, très, très claire. Et je l'ai. Je ne parle pas de là où j'habite maintenant. J'ai ce que je vois dans mon être intérieur. Il a dit, l'imagination, c'est l'avant-première des attractions de la vie à venir. C'est-à-dire que quand tu visualises des choses que tu veux dans ton futur, proche ou lointain, cela va attirer ces choses à toi. Tu vois ce qui est en train de venir à toi? Moi, je vois. Si je vous disais ce que je vois, vous partiriez. Déjà, certains, ils ne sont pas sûrs du message que je prêche. Hein. Mais tant que c'est biblique, pas de commentaires. Je vous donne juste un tuyau, là. Certains disent « Oh, ça c'est la scientologie, laissons les sectes où elles sont et n'ayons pas peur d'ouvrir la Bible. » Merci. Ok, allez, on continue ou on reste là plus longtemps? Allez, Pablo Picasso lui-même a dit « Tout ce que vous imaginez est réel. » Andrew Womack, au moins, si vous n'avez pas confiance en moi, est-ce que vous avez confiance en Andrew Womack? Ok. Il ne va pas sans l'autre. Merci. Il a dit, c'est ainsi que fonctionnent vos pensées. Vous ne pouvez rien faire sans elles, en parlant de l'imagination. C'est la partie de vous où vous concevez les choses. Tout doit être conçu dans votre imagination. Si vous ne le voyez pas dans votre imagination, vous ne pouvez pas le faire. En revanche, il y en a qui se voient uniquement vêtus d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'ils s'habillent. Il y en a qui se voient uniquement vivre dans un certain quartier. C'est comme cela c'est là qu'ils vivent. Il y en a qui ne se voient que conduire une certaine voiture. Qui n'entendent que les bruits d'une certaine voiture. Qui ne voient que les rayures d'une certaine voiture. Et résultat, c'est ce qu'ils conduisent. Je peux te dire ce qu'ils conduiront dans 5 ans d'ici. Vous croyez que le Seigneur veut que nous apprenions à nous servir de la vue? Et il a dit, c'est la différence entre nous et les animaux. Deuxième chose, les enfants apprennent rapidement une langue. C'est vrai ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'ils se rééduquent, ils s'éduquent, ou ils sont éducables, ça ne se dit pas, mais maintenant ça se dit. ils apprennent volontiers une autre manière de parler. C'est-à-dire que quelqu'un qui se voit aller dans les plus beaux hôtels, s'il parle toujours au moment des vacances, non mais on ne peut pas se le permettre. Je peux te dire exactement où il va passer ses vacances. Ce ne sera même pas dans un camping 4 étoiles. Peut-être pas à la Belle Étoile, mais ce seront les mêmes vacances qu'il a passées l'année dernière. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, comme les enfants, à se focaliser sur le neuf, sur ce qui est bon. Dites-moi là, qui a entendu parler de Cendrillon ? Quels sont les noms des nains que vous vous rappelez ? Hatch, Blanche-Neige, c'est vrai, c'est Blanche-Neige, merci. C'est vrai en plus. Ben non, parce que... Ok, alors il y a Grincheux, il y a Hatchoum. Qui ? Simplet. Joyeux, dormeur. Est-ce un professeur, c'est juste. Est-ce que vous avez remarqué que les premiers noms qui ont été donnés, c'est Hatchoum, Grincheux. Une personne a dit tout de suite joyeux. Tout de suite, d'autres ont copié, mais il y en a une. Christelle a dit joyeux tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on s'éduque à parler le langage de l'échec, le langage de la justification. Dites-moi, combien, regardez bien dans cette pièce tout autour de vous, combien d'objets de couleur bleue voyons-nous autour de nous ? Non, je ne vous dis pas ce que vous voyez, je dis donnez-moi un chiffre. Regardez autour de vous, c'est bon, on est à l'église. ...80 objets de couleur bleue, non. 50. Ok, maintenant, fermez les yeux. Et fermez les yeux. Dites-moi, combien d'objets de couleur rouge avez-vous vu ? Bon, voilà. La preuve est faite. Vous avez vu uniquement ce sur quoi vous êtes concentré. Mais il y a de la couleur rouge dans cette pièce. Merci Rosemonde, merci Benjamin, etc. Et on doit être comme des petits enfants, c'est-à-dire apprendre à se concentrer sur la méthode de Dieu. Troisième chose, les enfants sont curieux, ils apprennent tout le temps. Vous avez remarqué ? Ils veulent tout savoir, ils veulent... Si vous leur donnez un jouet, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à le démonter. Comment rester curieux ? Eh bien, l'être intentionnellement. Intentionnellement apprendre à penser et à voir ce que Dieu dit, pense et voit. Mais intentionnellement rester curieux, c'est-à-dire continuer à apprendre et à apprendre et à apprendre. Quelqu'un a dit, il faut 7 ans pour devenir un expert, ou alors il faut 10 000 heures. Peu importe comment. Alors certains disaient, ouh là là, ça c'est horrible, tu es fou. Il y avait deux amis qui étaient en train d'échanger, justement. Et il y en avait un qui était en train de dire, tu sais, là je suis en train de faire une activité, mais franchement, je ne sais pas si je vais la continuer. Et donc l'autre dit, mais est-ce que cette activité te plaît ? Ah oui, elle me plaît énormément. Je suis en train de faire quelque chose qui me plaît. Et l'autre disait, mais pourquoi dans ces cas-là, est-ce que tu ne continues pas ? La réponse était, parce que je suis rentrée dans ce domaine, j'avais 32 ans, c'est un peu âgé. Et si je me dis qu'il faut que je tienne 4 ans pour devenir un expert, franchement, il me reste 4 ans à faire, mais tu te rends compte, j'aurai 36 ans, c'est long. Et l'autre lui a dit, mais de toute façon, dans 4 ans, tu auras 36 ans. La question est, Est-ce que pendant ces 4 ans-là, pendant ces moments à venir, est-ce que tu vas devenir un expert dans les domaines qui t'intéressent? Ça, ça va t'aider à visualiser. C'est-à-dire que quelqu'un dit, oh, moi, je voudrais bien avoir cela, je voudrais bien faire tel voyage, j'aimerais bien. Bien, mais qu'est-ce qui va t'aider à faire tel voyage? Va sur Internet et renseigne-toi. Certains, ils veulent faire mais quand j'aurai l'argent, ou quand je serai en meilleure santé, ou quand je ne travaillerai plus, ou quand. Ben, d'accord, ben, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Tu peux changer les choses. Tu peux vivre normalement. Tu peux vivre différemment. Mais commence à apprendre. Si tu veux être un expert dans tel domaine, eh bien, intentionnellement, étudie ce domaine-là. Et c'est ce que font les enfants. Ils sont curieux. Mais la curiosité, c'est souvent quelque chose que les adultes perdent. Résultat, eh bien, ce qu'ils voudraient avoir pour leur futur, eh bien, ils ne l'ont pas. Une des raisons, c'est parce que quelquefois, ils ne se sont pas formés assez. Quatrièmement, les enfants savent ce qu'ils veulent. Six, hein. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu dis à un enfant, vous vous rappelez de ce que je vous avais donné comme pourcentage, il y a 80% des personnes qui ne savent pas, qui n'ont aucun rêve. Quand il y a eu ces statistiques-là, les gens qui ont demandé, mais à quoi rêvez-vous? Qu'imaginez-vous pour votre futur? Que voudriez-vous avoir? 80% des personnes ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Un enfant, si tu lui dis, on va au restaurant et on lui dit, ok, qu'est-ce que tu veux manger? Il te dira, en général, un steak. Il ne dira pas juste un steak haché. Il dira, je veux un steak haché avec des frites, avec de la mayonnaise, du ketchup, un Coca-Cola. De la salade? Non. Ils savent ce qu'ils veulent. À Noël. Alors évidemment, si c'est un inconnu qui leur pose la question, l'enfant, il dira, je ne sais pas. Mais devant les parents, quand on demande à un enfant, que veux-tu à Noël? Ben, je vais vous dire, ils vont vous donner une liste. Alors moi, je veux une poupée qui ressemble à une fée, et je veux un vrai diamant. Et pendant que l'enfant est en train de dire cela, elle voit sa poupée. Avec une grande couronne de diamants, elle est habillée en rose, avec des chaussures. Ah, elle a des baskets? Non! Elle a des chaussures à talons rose. Ah, avec un petit sac à main vert. Non, avec un sac à main rose. Demander la même chose, c'est une horreur à Noël les trois quarts du temps. Demander à un adulte, qu'est-ce que tu voudrais? Je sais pas. Du style débrouille-toi, utilise, ou j'ai besoin de rien. Demandez-moi à Noël ce que je veux. Oh. Osez me demander, je vous sors une liste de la plus détaillée. Mais voilà où nous sommes, parce que nous vantons tellement d'être rationnels que nous avons mis de côté cette capacité que nous avons de former des images mentales. Il y a une belle histoire que l'on a entendue d'une femme qui avait vraiment tout pour ne pas avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Et le nom de son entreprise, c'est Gigi Cupcake. On l'a entendu cette histoire quand on est allé à la conférence de Terry Sabel. Tu veux bien nous la raconter? Je me suis dit que Pasteur Elisabeth se rappellerait mieux que moi.
Alors Gigi Cupcake, elle a grandi dans une famille où son père était quelqu'un qui rêvait de beaucoup de choses. Et quand il rêvait, ben il commençait son affaire. C'est-à-dire qu'il vivait sur une ferme. Et un jour, son père a dit, ben pourquoi on ne ferait pas un restaurant? Et Gigi, à l'époque, elle a vu son père qui ouvrait un restaurant. Puis après, il a voulu un deuxième restaurant. Et elle a grandi avec cette mentalité de poursuivre ses rêves. Donc, elle, enfant, elle avait deux passions. Elle avait le chant, elle avait la passion de faire la cuisine, particulièrement des gâteaux qu'elle avait appris avec sa mère. Et ça, c'était deux choses qu'elle aimait faire. Et donc, en grandissant, eh bien, forcément, elle a dupliqué ce qu'elle avait vu son père faire, c'est-à-dire poursuivre son rêve. Et elle en a choisi un des deux, et elle a choisi le chant. Et elle dit, adolescente, j'ai tout sacrifié pour devenir chanteuse. C'est-à-dire qu'elle a déménagé, elle a arrêté ses études, elle a déménagé, elle est partie dans une ville, je ne sais plus laquelle c'était, pour vraiment étudier le chant. Elle a consacré tout, à vrai dire, ses finances, elle a tout investi pour construire ses rêves. Et donc, il fallait quand même qu'elle vive. Donc, elle a ouvert une société de ménage. Elle était, elle avait des employés. Et entre ses chants, elle vivait de son ménage. Elle a, vous l'entendez parler, elle dit, écoutez, je suis celle qui, aujourd'hui, peut vous dire que j'ai nettoyé 65 WC dans ma vie. 65 000 WC dans ma vie. 65 000 WC. Et quand elle a eu cette entreprise de ménage, elle a été travailler chez des gens qui avaient de très grosses situations. Et elle disait que ce n'était pas évident parce qu'elle poursuivait ses rêves, mais en même temps, tout l'a ramené à la réalité de la vie. Et un jour, elle est chez une de ses clientes et elle entend une jeune femme. Donc, son rêve était de devenir la chanteuse, hein, vous imaginez. Hein. Et elle était chez une femme et d'un seul coup, dans une chambre, elle entend une jeune femme qui chantait. Et quand, c'était la fille de la propriétaire, et elle dit... Quand j'ai entendu cette jeune femme chanter, immédiatement, j'ai su que je ne deviendrai jamais chanteuse. Parce que quand elle a entendu cette jeune femme qui chantait, elle a vu que le don qu'elle a, la passion qu'elle avait n'était pas quelque chose qui pouvait l'amener à une carrière. Elle a réalisé que la jeune fille qui était plus jeune qu'elle, qui chantait, avait tout ce qu'il fallait, elle, pour être une chanteuse. Elle dit, je suis repartie de cet endroit ce jour-là, j'étais brisée, parce que d'un seul coup, tous mes rêves s'effondraient. Donc, elle a continué à travailler, à faire des ménages, à nettoyer les WC. Et puis, un jour, et elle dit, j'étais au stade où je ne savais plus que faire parce que je voyais que là, j'avais perdu mon rêve. Et un jour, son frère l'appelle, lui dit, oh, Gigi, écoute, tu sais, je suis, je ne sais plus dans quelle ville il était, New York ou quelque chose comme ça, et je suis en train de manger un cupcake et forcément, je pense à toi. Elle dit, ah bon, pourquoi ? Parce que tout simplement, le cupcake que je mange n'a rien à voir avec les tiens. Tu es bien au-dessus de tout ça. Franchement, pourquoi tu n'ouvres pas une boutique ? Et puis, elle raccrochait, et puis elle est restée un petit peu... Et elle a laissé l'idée mûrir. Et en laissant l'idée mûrir, eh bien, c'est devenu substance en elle. Et elle s'est dit, eh bien, je vais réinvestir pour poursuivre ce rêve. Et elle a commencé à aller voir, donc se renseigner, elle a commencé à refaire, elle disait dans ma cuisine, j'arrêtais pas de faire des cupcakes, de créer de nouvelles recettes. Et elle a commencé à aller voir des banquiers de la ville pour dire, ben voilà, je vais monter une affaire, je voudrais un financement. Et elle a fait toutes les banques. Et tous les banquiers lui ont dit, alors c'est quoi votre idée là? Qu'est-ce que vous allez faire comme business? Elle dit, ben voilà, je veux ouvrir un magasin où je vendrai des cupcakes. Et alors, tous ont eu la réaction de dire « Non, mais vous plaisantez. Non, mais vous ne croyez pas que je vais financer un tel projet. » Et tous se sont moqués d'elle. Elle n'en pouvait plus de voir des portes fermées. Mais la différence, pourquoi elle ne s'est pas arrêtée, c'est qu'en elle, c'était fondé. Le Seigneur avait réveillé un rêve qui était en elle et ça venait de Dieu. Cette fois-ci, ça venait de Dieu. Et donc, elle s'est dit « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Et puis en même temps qu'elle cherchait un financement, elle avait vu une boutique qui était honnêtement, qui était parfaite pour vendre des cupcakes. Et elle a commencé à aller voir le propriétaire qui lui a dit « Non mais vous plaisantez, je ne vais pas vous louer ça. Et hors de question, vous n'allez jamais, ça ne va pas marcher, des cupcakes, non mais où est-ce qu'on a vu ça ?» Donc elle a continué à travailler sur ce projet et puis à un moment elle s'est dit « Il faut que je bouge ». Elle a été, parce qu'aux États-Unis, si vous avez une carte de crédit, à vrai dire, c'est vraiment une carte de crédit. Vous pouvez ouvrir un crédit avec ça. Et elle a décidé d'emprunter combien ?
Oh, je ne sais plus. Enfin, elle a ouvert le magasin.
Elle a ouvert le magasin. Elle a emprunté je ne sais combien. Je crois que c'était 100 000 comme, avec sa carte. C'était énorme. Elle a gagé sa vie parce qu'elle savait que c'était tellement vivant. Elle voyait sa boutique. La veille, elle a un coup de fil, à la veille de l'ouverture, elle discute avec je ne sais plus qui lui dit, bon, bah alors, c'est... elle dit, écoute, franchement, je crois vraiment, mais j'espère qu'il va y avoir quelqu'un. Le lendemain, elle a été ouvrir sa boutique, elle avait les clés, tout était prêt, elle a ouvert sa boutique, et quand elle est arrivée, elle a vu les gens qui faisaient la queue. En l'espace de 3 mois, elle ouvrait une deuxième boutique. Et aujourd'hui, sa société vaut 35 millions de dollars. Elle disait, franchement, ça c'est parce que j'ai poursuivi mon rêve.
Et elle le dit, ouais, c'est excellent. Et elle le dit avec une telle modestie. C'est elle alors, je ne sais même pas si elle se rend compte qu'elle a 35 millions. Mais c'est une personne extrêmement humble et qui a refusé de s'arrêter aux circonstances. Alors, autre chose, les enfants, une des choses qu'ils font, c'est les enfants, vous avez remarqué qu'ils s'exercent, ils pratiquent ce qu'ils voient. Très souvent, quand un enfant est en train de... Il est sur un circuit avec son train, c'est pas seulement qu'il va jouer avec son train, il va le déplacer sur les rails, qu'est-ce qu'il va faire ? Il entend le bruit. Et puis tout d'un coup, le train va s'arrêter, il va s'arrêter à la gare, et l'enfant va dire « Allez, tout le monde descend !» Il est seul dans la pièce, mais il voit tous les passagers qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui va rester bâillé au cornet comme cela, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de s'exercer et de vivre avec son rêve. Qui a déjà utilisé des sites comme Replay ? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a... Il y a un match, il y a eu une belle victoire, et tous ceux qui aiment, je sais pas moi, la Coupe du Monde ou quoi, ils ont la possibilité de revivre la victoire, de revoir la victoire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils vont sur ce site-là qui s'appelle Replay et ils peuvent revivre la victoire. Eh bien, quand on prend le temps de pratiquer le fait de visualiser, on n'appuie pas sur un bouton Replay pour revivre la victoire, mais pour la vivre avant qu'elle ait eu lieu. Est-ce que vous savez que c'est exactement ce que font tous les grands sportifs ? On sait que les pilotes le font. Les pilotes de la... Comment ça s'appelle, ça ? Les, de chats, ouais, non, ceux qui, sont, qui font des spectacles. La patrouille de France, c'est exactement ce qu'ils font. Avant, ils se mettent en groupe, ils ferment les yeux et ils font toutes les manœuvres ensemble. Et ils visualisent mentalement et ils disent ça, ça fait partie de notre formation. Nous sommes obligés de visualiser dans une pièce, ensemble, ce que nous allons faire dans les airs. Mais les grands sportifs aussi, il y en a un notamment qui s'appelle Wayne Rooney, qui est un attaquant de Manchester United. Alors, excusez-moi, je comprends rien au football, mais en tout cas... J'ai lu son exemple et moi je savais parce que j'ai lu un livre un jour qui m'a été remis sur le fait que les sportifs imaginent la victoire avant de la vivre. Tout le monde veut voir un match une fois qu'il a eu lieu, mais ce qu'il faut c'est voir un match avant qu'il y ait eu lieu, voir un contrat signé avant qu'il y ait eu lieu, voir une maison habitée par vous avant que vous ayez même la clé. Voir la clé avant que vous l'ayez. Voir un bâtiment fini avant qu'il ne soit fini. Voir une voiture nouvelle dans le garage avant que vous n'ayez même vendu la vôtre. Et cet attaquant de Manchester United dit, voilà ce qu'il fait. Il dit, La veille du match, je m'allonge sur mon lit et je me vois marquer des buts. C'est un jour ce qu'il a révélé. Il dit, vous essayez de vous mettre dans ce moment et d'essayer de vous préparer, d'avoir une mémoire avant le match. Savoir exactement quelle tenue il portera l'aide à avoir une vision plus riche, plus détaillée et plus authentique. C'est-à-dire, il met sa tenue avant le match, il se voit dedans en train de marquer des buts. Là, je vous donne des exemples concrets de ce que la Bible nous dit de faire. Encore une fois, c'est une manière normale. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser cette capacité de former une image mentale, c'est pas grave. Au moins, vous savez où vous serez dans 5 ans d'ici. Mais il y a un défi qui est devant nous. Et il continue. Il dit, je ne sais pas si tu appellerais ça visualiser ou rêver. Il dit, mais je l'ai toujours fait toute ma vie. Pour Rooney, cette illustration de l'imagerie, l'acte de créer et de répéter une expérience mentale positive afin d'améliorer votre capacité à réussir dans la vie réelle est une méthode perfectionnée depuis l'enfance. C'est-à-dire que cet homme-là a rêvé d'être à Manchester United. Il a rêvé d'être professionnel. Et c'est quelque chose qu'il dit qui lui a été inculqué par ses parents. Exactement comme Gigi Cupcake. Son père lui a appris à rêver. Ah, on vend des œufs. Ah ben tiens, pourquoi on n'irait pas en vendre sur le marché ? Et puis après, ah ben pourquoi on n'irait pas les vendre dans une boutique ? Au lieu que les parents tuent les rêves. Oh non, mais de toute façon, tu sais, il n'y a pas de boulot. Alors, je vais te dire, moi, il n'y en avait déjà pas à mon époque. Alors, toi, mon grand, tu sors de l'école et on tue les rêves. On est en train de leur dire pourquoi ils ne devraient pas cesser de rêver. Pourquoi ils ne devraient pas se voir le meilleur chirurgien. Pourquoi ils ne devraient pas se voir, ben, tiens, le meilleur pilote. Pourquoi être médiocre en plus ? Et puis il disait, ça c'est une méthode qui a été pratiquée par Mohamed Ali. Il y a un autre qui s'appelle Johnny Wilkinson, qui est un rugbyman, qui effectue régulièrement des séances de visualisation avant les matchs. Il dit, vous créez les images, les sons, l'atmosphère, les sensations, jusqu'au réveil du lendemain où cette sensation est dans votre estomac. C'est comme ça qu'il dit. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, ça aide votre corps à s'habituer à jouer sous la pression. Pourquoi ? Parce que quand il a visualisé les attaquants de l'autre équipe qui viennent contre lui et qu'il était dans le match avant d'y être et qu'il avait mal et qu'il sentait la pression des autres, une fois qu'il est sur le terrain, il est déjà passé par là. Et ça, c'est une capacité. Vous savez que notre cerveau ne voit pas la différence entre ce que nous visons. Enfin, ne voit pas. Voilà comment je vais le mettre. C'est ce que nous voyons et ce qui est réel. Notre cerveau ne distingue pas si c'est uniquement visuel, si c'est réel. C'est pour cela que tout ce que nous regardons à la télé, si important, parce que notre cerveau donnera à notre corps les mêmes ordres que si c'est réel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez, il y a quelqu'un qui vient devant vous dans la rue et qui est, il a l'air menaçant, et puis il est suivi de deux, trois personnes, et vous commencez à avoir peur. Bien, le cerveau va envoyer il va dire à votre corps, prends les jambes à ton cou ou pas. Si vous êtes devant l'écran de télé et que vous voyez un film d'horreur, votre cerveau ne fait pas la différence si vous le voyez en vrai ou si vous le voyez sur l'écran ou si vous le voyez sur l'écran de votre âme. Un cauchemar, ouais, c'est ça, on se réveille en sursaut. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, c'est pour cela que les enfants, on ne peut pas les laisser devant un écran de télé toute la journée comme cela. Mais quand on voit quelque chose sur l'écran de notre âme, que vous voyez ce beau voyage que vous voulez faire, votre cerveau a envoyé des ordres à votre corps. Et quand vous y êtes, il est prêt. Au lieu de se laisser abattre par la pluie qui vient de tomber, vous avez été déjà dedans, c'est pas grave, c'est pas grave, on y est. Et hop là, les vacances sont bonnes. Au lieu d'avoir peur de signer tel contrat ou de que sais-je, eh bien, si vous le visualisez d'abord, mentalement, vous êtes préparé et votre cerveau a envoyé, au lieu d'envoyer des signaux à votre corps de se préparer pour l'échec et à ressortir du bureau, les épaules basses, les pieds qui traînent, la mine grise, eh bien, votre cerveau en déjà... Ça, c'est le côté humain de l'affaire. Mais nous, les chrétiens, nous devrions savoir que faire avec cette capacité que Dieu nous a donnée de visualiser des images mentales qui ont à voir avec notre futur. Enfin, 10, l'enfant se relève rapidement quand il chute. C'est-à-dire que contrairement à un adulte, surtout français, « Ah ben ça n'a pas marché. Ah ben j'ai pas réussi. Ah ben non, un enfant, pap, il se relève, on lui parle de quelque chose qui va l'intéresser, clac, il a oublié. » Et nous les adultes, on doit être comme un enfant. Quand il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qui n'est pas arrivé aussi vite que l'on pensait, immédiatement on se relève, on dit, tu sais quoi, c'est pas terminé. Tant qu'il y a le souffle en moi, ça n'est pas terminé. Et il est bien évident que rien de cela ne marchera si on n'y croit pas. Maintenant, d'une manière pratique, pour visualiser... Bien, moi, je vais vous encourager à faire exactement ce que Terry Savell nous a déjà dit. C'est faites-vous un tableau. Trouvez des images de, je ne sais pas moi, la voiture que vous voulez. Alors, il y a une question de foi. Hein. Si vous avez toujours conduit une 3 chevaux et que vous voulez une 30 chevaux, laissez-vous une étape intermédiaire, parce qu'on grandit dans la vie. Et trouvez une image et mettez cette image sur un tableau. Et ce que Terry Savell, vous savez, nous, on a vu son ministère. C'est énorme. Tout ce qu'elle a eu, la croissance de ce ministère est complètement surnaturelle parce qu'elle a appris à collaborer de la sorte avec Dieu. Surnaturelle. Et trouvez-vous un tableau, mettez-vous la photo de la nouvelle voiture pour laquelle vous êtes en train de croire, visualisez, et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Prenez le temps. Elle dit pendant 30 jours, écrivez tout ce que vous avez. Mettez 10 choses, donnez-vous 10 objectifs. Et tous les jours, réécrivez ces 10 objectifs. Ouvrez ce cahier ou regardez ce tableau. Tous les jours, regardez et visualisez, regardez cette voiture, bah oui, c'est une image que vous avez découpée dans un catalogue. Maintenant, fermez les yeux et voyez-vous en train de conduire cette voiture. Voyez-vous, que ce soit le couple, que ce soit peu importe, mais mettez cela, quelqu'un qui est malade, que fait cette personne ? Prends une photo d'il y a 2, 3, 4, 5 ans, quand cette personne était très bien portante. Découpe cette photo, se la met sur un tableau et regarde et se rappelle comment, voilà qui est cette personne. À un moment, j'ai voulu perdre des kilos. Je sais que ça va vous intéresser, mais écoutez, supportez ma vie. Mais à un moment, j'ai dit, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont pas négociables. Je n'ai pas l'intention. Mais non, on fait ce que l'on veut, et, d'accord ? Moi, je n'ai pas l'intention d'avoir moins de mémoire, surtout que je sais que celle ne disparaît pas. Je n'ai pas l'intention d'arrêter d'étudier. Ça, c'est des choses qui ne sont pas négociables. Mais il y a une certaine forme physique qui n'est pas négociable pour moi. En plus, ça inclut la santé, bien évidemment. Mais juste un certain aspect physique. Et je me suis dit, j'en ai assez, ça devient incontrôlable, cette histoire. J'ai pris une photo que j'avais de moi, que je trouvais très bien. Je me dis, là, ça me plaît, ce que je vois là. Et je l'ai mise sur mon ordinateur. Et tous les jours, je l'ai vue. Devinez ce qui s'est passé. Ouais, ben ça commence, ça s'appelle perdre des kilos, mon grand. Dieu veut que l'on utilise la vue à bon escient. Au lieu de se voir dans l'échec, au lieu de se voir quitter la maison pour divorcer, au lieu de se voir rentrer à l'hôpital, au lieu de se voir rentrer dans les pompes funèbres, au lieu de se voir rentrer dans le cercueil, ben c'est comme ça. On va dire ce qui se passe. Au lieu de voir un huissier qui frappe à la porte et qui vient retirer tous les meubles. J'ai appris qu'en Allemagne, ils ont même pris le chien des gens et ils l'ont vendu pour... c'est horrible, ça. Hein. Ben ouais. On verra quelque chose. Dans 4 ans, on aura 4 ans de plus. 36 ans. Donc, prenez des photos. Vous voulez faire un voyage ? Allez sur Internet, allez dans une agence de voyage. Dites, bon, ben voilà, moi, je voudrais aller à Tombouctou. Donnez-moi un catalogue sur un voyage à Tombouctou. Coupez la photo et mettez-la. Et vous dites, mais dans combien de temps j'aurai cela ? Vous savez, il s'agit de renouveler les pensées. Donc, ça va prendre du temps. Mais en même temps, on croit que parce qu'on a trouvé un principe dans la parole de Dieu qui est vrai, ça marche. Et puisque c'est un principe, une fois que j'ai vérifié dans les Écritures que ça marche, en ce qui me concerne, c'est réglé. Je vais le mettre en pratique et ça n'est qu'une question de temps, mais ça va marcher. Je vais vous lire juste ce passage, Habacuc 2, 12. Vous avez vu le tableau, désolé, l'image était un peu petite. Habacuc 2, 2 à 3, pardon. Il est dit, écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes. Ça peut être ton iPad, hein. Et il dit, pour qu'on le lise, c'est-à-dire qu'il faut que tes yeux le voient, pour qu'on le lise. Et après, il dit, facilement. Ben moi, quand j'ouvre mon cahier et que je vois mon relevé de compte, que je vois la maison, que je vois, il y a 2 bijoux que je veux, 3... que je vois l'Église telle que je la veux dans mon cœur, que je vois des tas de choses encore, eh bien, c'est très facile pour moi de m'imaginer parce que je visualise cela avec les images que j'ai mises dans ce carnet. Vous saviez, vous devriez me payer une fortune pour vous dire ce que je dis là. Le prix que je vois sur la feuille de sa... Non. Et il est dit, les choses... Et Dieu continue, verset 3. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Vous déprimez pas, parce qu'après la fin de la phrase, c'est « Elles vont bientôt se réaliser. » Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Parce que Dieu nous donnera ce que l'on voit quand il sait que nous serons quand il sait qu'elles ne nous détruiront pas. Mais à partir du moment où on met en pratique un passage de la parole de Dieu, ces choses se produiront. Moi, je suis déterminée. Vous n'avez aucune idée. Je vais avoir ce que je vois. C'est ce qui m'amène à prophétiser. Il y avait un message extraordinaire que Kenneth Copeland a prêché. Si tu es le propre prophète de ta vie, Certains sont toujours à courir après des prophéties à droite, à gauche. Ben, si tu vois quelque chose que Dieu te donne, cela t'amènera à le parler. Bon, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite financière, il n'y a pas de limite de diplôme, il n'y a pas de limite. Il n'y en a aucune sauf celle que tu te donnes à toi et celle que tu donnes à Dieu. Bien.